Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Eh bien, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Autrement, pour les plus courageux, même en vacances, on a décidé de faire quand même une émission d'Histoire de voir, histoire au pluriel, un enregistrement d'une conférence que Ludivine Bantigny, historienne et qui était autrice du livre intitulé « Une histoire globale des révolutions » fin de l'année 2023, d'une conférence qui s'est tenue à la bibliothèque La Bastide, animée par Charlotte Bruno, qui est conservatrice à la bibliothèque de Bordeaux. Et nous y avons retiré deux éléments. D'abord, un rappel. Qu'est-ce qu'une révolution? D'où vient le mot révolution? Son étymologie? Et la différence qu'il peut y avoir entre une révolte, une rébellion, une révolution? Et puis, dans le cadre d'une question qui était posée sur la vision franco-centriste de la révolution et comment cela se traduit dans nos institutions, nos discours, etc., Ludivine nous rappelait que la dernière révolution européenne s'était déroulée au Portugal il y a maintenant 50 ans. Parmi nous, certains y ont couru pour assister à ce processus révolutionnaire, et on salue à cet égard tous ceux et toutes celles qui se réfèrent encore à ce mouvement magnifique de la révolution dite des œillets, et nous souhaitons à toutes et à tous un bon anniversaire. Ça, c'est la première partie de l'émission. La seconde partie de l'émission sera consacrée à Nancy Houston. Oui, parce qu'on a participé aux dernières escales du livre les 4, 5 et 6 avril dernier, et j'avais mon micro dans la poche, et quand il a été question de présenter le livre de Nancy Houston qui s'appelle Francia au TNBA, j'ai ouvert le micro, et en fait c'est pas si mal. Donc elle va nous parler de son livre. Elle est Nancy Houston, vous la connaissez sûrement. Elle nous explique l'objet de son livre, qui est aussi une enquête sur prostitution au Bois de Boulogne. Alors dit comme ça, c'est un peu court, mais à travers ce livre elle aborde énormément de choses, et ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est outre le cheminement du transgenre Francia qui est originaire de Colombie, c'est aussi sa réflexion autour de l'exil et des exils. Comme vous le savez, nous avons en mars dernier fait une grande semaine au théâtre de l'Inox sur l'exil des mondes passés et des territoires d'avenir, et elle en parle très très bien. Pour ceux qui la connaissent peu, c'est Nancy Houston. Elle est née en 1953 à Calgary au Canada. C'est donc une écrivaine franco-canadienne. Elle écrit aussi bien en français qu'en anglais. Et elle va avoir une enfance un peu agitée, puisque sa mère abandonne le foyer et elle se retrouve seule avec son père. D'ailleurs, venir s'installer à Paris dans les années 70, elle va être une femme reconnue comme militante féministe, hein, puisqu'elle est élève de Roland Barthès. Elle débute donc sa carrière d'écrivaine au MLF, elle est bien tombée. Et puis elle écrit très vite des bouquins qui vont avoir du succès à cette époque. Elle obtient plusieurs prix, le Goncourt des lycées en 96, et puis Nancy Houston s'est vue attribuer le prix Femina pour Ligne de faille. Et d'ailleurs, Ligne de faille est un trait d'union entre la personne qui va l'interviewer, qui est Catherine Marnas, qui a été directrice pendant 10 ans du théâtre du TNBA, et qui avait mis comme une de ses premières œuvres mises en scène, du 8 au 23 octobre 2014, ce livre « Ligne de faille ». Alors le résumé du roman, c'est à travers les portraits croisés d'une prostituée transgenre ultra-résiliente et sa ribambelle de clients, l'écrivaine donc Nancy Houston dissèque les mécanismes de la domination dans son dernier livre paru chez Actes Sud. C'est intéressant de mettre en parallèle l'histoire abordée notamment par Ludivine Bantigny, qui parle, elle, de révolution anthropologique, de voir en fait aussi que ce que soulève le livre de Nancy Houston a des résonances en fin de compte avec l'histoire telle qu'elle évolue aujourd'hui, et qui n'est pas forcément une caricature de changements brutaux, mais de longs processus qui amènent à des changements de régime et de nature même, dans le rapport entre les hommes, entre les êtres, entre la nature, etc. etc. Alors bonne écoute, tendez un peu l'oreille, à très vite, Merci.
Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Expliquer finalement, parce que dès l'introduction, vous parlez d'européanocentrisme en fait dans la perception de la révolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la vision, alors on va dire franco-centriste de la révolution, on l'a un petit peu esquissé tout à l'heure, et comment cela se traduit très concrètement encore aujourd'hui dans les discours, dans nos institutions, dans nos représentations?
Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu tout à l'heure que la question de l'internationalisme et des solidarités internationales et de l'idée aussi de sortir d'une vision ancrée en Europe, en Occident ou sur la France, cette idée-là, elle a surgi. Parce qu'on a de plus en plus conscience du monde auquel on appartient. On en a d'autant plus conscience pour diverses raisons qui tiennent aux formes diverses de la mondialisation, mais qui tiennent au fait du sentiment de la cohérence et de la cohésion de tout ce qui nous tient, de tout ce qui nous lie. Donc quand on parle du biocide, de la destruction du vivant, de l'écocide, voilà, de cette destruction des écosystèmes, on sait très bien que l'enjeu ne va pas se résoudre à l'échelle d'un seul pays. Mais ça, en fait, c'est aussi toute l'histoire des révolutions qui est pétrie de cette dimension de fraternité entre les peuples. Ce qu'on a voulu montrer dans l'ouvrage, c'est que les questions de solidarité, de lien, d'effet d'écho entre les mouvements révolutionnaires sont extrêmement puissants, extrêmement forts, et que si on sort de notre vision franco-centrée en s'imaginant souvent que voilà, c'est la France qui a inventé la révolution, on s'aperçoit que les révolutions sont un phénomène constitue un phénomène qui est vraiment récurrent dans l'histoire. Et ça, ça peut aussi nous encourager dans la question qui est posée, est-ce qu'une révolution est encore possible ? Est-ce qu'on va pouvoir en faire une ? Parce que les peuples sont finalement assez familiers de l'histoire révolutionnaire. Et même si, bien sûr, tout à l'heure, une personne a dit à juste titre qu'il fallait à chaque fois contextualiser, et il ne s'agit pas de comparer les révolutions qui ont eu lieu aussi bien en Tunisie, en Égypte, au Bahreïn, en Syrie, au Sri Lanka, ces dernières années, les soulèvements populaires incroyables qu'on a connus, notamment aussi à Hong Kong, avec la Révolution française ou la Révolution américaine. Mais quoi qu'il en soit, des révolutions, notamment dans ce monde global, dans une perspective aussi de rapport sud-nord, on en a vu énormément au cours de ces dernières décennies. En Europe, la dernière, c'est celle de 1974, la révolution des œillets, dont on célèbre aujourd'hui, justement, enfin, cette année, les 50 ans, et qu'il faudrait peut-être pouvoir interroger d'assez près, parce que ce n'est pas seulement la dernière révolution en Europe, mais ça a été une révolution spectaculaire sur le plan de l'auto-organisation populaire et qui, de surcroît, n'a pas eu recours à la violence révolutionnaire. On croit toujours que la violence est intrinsèque à la révolution. Je pense qu'il va falloir nuancer ça. Et en tout cas, voilà, quand on regarde ces rapports globaux, en faisant une histoire globale, précisément, on mesure que... ces soulèvements populaires, ils n'ont cessé d'activer des consciences politiques très, très larges. Donc nous, on essaye de brasser justement cette histoire de l'Inde au Mexique, en passant par les révolutions chinoises. Aujourd'hui, on assiste en Iran à un soulèvement populaire d'un courage incroyable. Et ça, c'est pareil, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que, bon, qui aurait imaginé ? Moi, en Iran, en Algérie... La révolution algérienne, bien sûr que là, elle est à l'arrêt. Et bien sûr que dans toute révolution, il y a des avancées et des reculs. Je suis allée en Algérie en 2018. Et à l'époque, je constatais dans beaucoup de discussions qui étaient très prudentes, d'ailleurs, parce que le régime était écrasant de dirigisme et d'autoritarisme, que... Voilà, on regardait plutôt les autres révolutions du monde arabe d'assez loin. Encore une fois, avec distance, voire avec une prudence qu'on pouvait expliquer par le traumatisme de la décennie noire. Et finalement, sans qu'on puisse s'y attendre, il y a eu un soulèvement populaire qui a été vraiment, vraiment spectaculaire et très courageux. Et donc, par exemple, pour ce qui concerne l'Iran, ce qu'on essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est que ça ne surgit pas ex nihilo. Ça surgit aussi du côté du peuple kurde, puisque ça a commencé aussi comme ça, hein, solidarité aussi avec les femmes kurdes. Et puis, donc, femme, vie, liberté, ça s'inscrit dans une plus longue histoire, qui est vraiment une histoire séculaire, celle de la révolution des années 1900, celle de la révolution de 1951, bien sûr celle de 1979, toujours en Iran, mais qui est extrêmement complexe, hein, qui a vu triompher finalement le régime des ayatollahs et des mollahs, mais c'était pas du tout joué d'avance, évidemment. Donc, il faut pas avoir un regard trop... je vais employer le mot un peu lourd de téléologie, c'est-à-dire quand on commence toujours par la fin et on s'imagine qu'elle est fatale. Donc, ce qu'on a voulu aussi faire dans le livre, c'est défataliser cette histoire en montrant toutes ses potentialités révolutionnaires. برای توی کوچه رسیدم، برای ترسیدم، به وقت بوسیدم، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زپرگر و آرزوراش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای گریه های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که می‌خنده، برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نامه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای
احساس آرامش،
برای خورشید پس از شبای طولانی،
برای خالص های اعصاب و بیخوابی،
برای مرد میخن آبادی،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود،
برای زن زندگی.
Dans le cadre du cycle Parlons Histoire, nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Ludivine Bantini. Ludivine Bantini, donc vous êtes historienne, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Rouen, vous êtes autrice, vous êtes chercheuse, que ne faites-vous pas ? Vous avez pour objet d'étude l'histoire du travail, des inégalités, des mouvements sociaux et des révolutions. Vous portez également une attention toute particulière sur la place et le rôle des femmes, en fait, dans l'histoire de ces luttes. Et je tiens à le souligner parce que c'est suffisamment singulier pour être évoqué. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont 1968, De grand soir en petit matin, La commune au présent, en 2021, et L'ensauvagement du capital, en 2022. Donc vous avez coécrit et dirigé donc avec Quentin Duluermos, Boris Gobille, Laurent Jean-Pierre et Eugenia Paliraki, Une histoire globale des révolutions, publiée aux éditions de La Découverte et parue donc très récemment, en septembre 2023. Donc c'est un ouvrage extrêmement dense, étayé donc par les contributions de plus de 67 chercheurs, une approche qui est plutôt pluridisciplinaire, et ça aussi, ça mérite d'être souligné, donc chercheurs et chercheuses, et qui donne à voir et à comprendre comment les révolutions sont amenées à se déployer dans d'autres pays, dans d'autres époques, d'autres contextes. Disons que dans cet ouvrage, vous nous conviez à parcourir finalement l'histoire des révolutions autrement. D'une part, en je cite, nous laisser guider par des traversées thématiques qui bravent les cloisonnements géographiques et chronologiques, et d'autre part, en mettant en exergue leur connexion, leur porosité à l'échelle mondiale. Donc en introduction, et on en a parlé un petit peu dans le débat mouvant, j'aimerais bien que vous évoquiez finalement ce qu'est pour vous une révolution, je cite, un objet un peu non identifié. Vous évoquez la paradoxale banalité des révolutions, mais aussi le fait que ce terme soit amputé, euphémisé, parfois même relégué au rang de slogan publicitaire dans l'imaginaire collectif. Donc, en préambule, est-ce que vous pouvez revenir sur l'étymologie de ce mot, donc livrer votre définition, et finalement nous dire en quoi une révolution se distingue d'un mouvement de révolte ou d'un soulèvement?
Merci beaucoup, Charlotte. Alors, je vais d'abord dire quelques mots, d'abord de grands remerciements. Alors, à vous, Charlotte. Merci beaucoup d'avoir préparé. Moi, je suis vraiment épatée par ce que vous faites ici. Je tiens vraiment à dire toute ma gratitude à Marie-Pierre Rassa qui m'a accueillie avec beaucoup d'hospitalité, de générosité. Et je suis admirative de cette association entre la bibliothèque, le réseau de bibliothèques et l'Université populaire de Bordeaux. Je trouve que c'est génial de faire un débat mouvant et j'espère qu'on va pouvoir aussi continuer l'amorce d'échanges qui s'est déroulée à l'instant, parce que en plus ça correspond tellement bien à notre sujet et ça correspond aussi pleinement à l'acception qu'on peut se faire et la conception qu'on peut se faire de la démocratie, parce qu'évidemment une révolution sans démocratie ça peut rapidement être problématique, et donc là c'est une richesse particulière, et je dois vous dire donc à la fois ma reconnaissance et mon admiration pour ça. C'est très rare en fait, et je sais que c'est peut-être un combat aussi de pouvoir proposer ce genre d'initiative, et donc j'en suis vraiment très touchée. aussi que vous m'ayez invitée dans ce cadre. Et juste préciser par rapport à ce que vous avez dit, Charlotte, que en fait, je ne suis plus maître de conférence parce que j'ai décidé de démissionner de l'université il y a maintenant 2 ans et demi. Et voilà. Et donc, j'enseigne dans le secondaire et j'enseigne même en collège, voilà, dans un collège populaire, d'un quartier populaire. Et c'est très bien aussi. On s'est déjà posé la question collectivement de ce que pourrait signifier révolution, puisque on a tenté de répondre à la question de savoir si elle était encore possible aujourd'hui. Donc forcément, on a eu un premier petit échange. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, au fond, la révolution, c'est nécessairement un grand soir. C'est nécessairement de l'événement. Alors évidemment, il y a toujours de l'événement, il y a toujours de l'événementialité, du surgissement et du populaire et du soulèvement populaire. Parce que s'il n'y a pas du peuple au sens d'une catégorie politique, voilà, on forme en général une population, mais il y a peuple quand il y a un avènement d'une conscience politique collective, d'une intelligence collective. On pourra avoir le débat, entre autres, sur cette dimension-là, mais moi, je suis assez contrariée par la façon dont on parle de populisme pour dénigrer le mot peuple. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir le mot peuple comme un enjeu politique absolument majeur à arc-bouter à la question de la démocratie. Donc, en effet, s'il n'y a pas un engagement collectif auto-organisé, ça on pourra y revenir aussi parce que ça me paraît un principe de base, auto-organisé, qui a le souci de la démocratie, qui a le souci de la légitimité de la parole, comme on vient de le faire, voilà, ce qui est formidable dans un débat mouvant. D'ailleurs, tout le monde s'est senti assez à l'aise et légitime à prendre la parole, c'est que précisément, c'est un refus aussi de la hiérarchie, voilà, c'est une manière de plaider pour l'horizontalité. Donc la différence entre une révolte et une révolution, c'est que la révolution, elle renverse un certain ordre établi qui est contesté, qui peut être exploiteur, qui peut être oppresseur, dans une perspective de justice, d'émancipation, d'équité, d'égalité. En tout cas, dans l'ouvrage collectif dont vous avez parlé, l'histoire globale des révolutions, une histoire globale des révolutions, c'est pas l'histoire au sens où elle prétend pas être définitive, mais on a choisi cette acception-là, alors que les autrices et auteurs ont décliné de différentes façons, mais on s'est évidemment posé la question en amont, avec Eugénia Paliraki, Quentin Deluermos, Boris Gobi et Laurent Jean-Pierre, de savoir ce qu'on allait faire, notamment des régimes qui peuvent se dire révolutionnaires, qui peuvent se réclamer de la révolution, mais qui, à nos yeux, et je peux en dire deux mots, sont plutôt contre-révolutionnaires. Je pense au fascisme et à ses différentes déclinaisons dictatoriales, voire totalitaires. Le nazisme, bien sûr, en fait étroitement partie, qui ont essayé de récupérer le mot révolution, avec une sorte de paradoxe d'ailleurs, puisque d'un côté, ils disaient qu'ils faisaient une révolution, et on sait aussi que le régime dictatorial et autoritaire de Philippe Pétain s'est autodésigné comme révolution nationale, ce en quoi, finalement, ils reprenaient une vieille acception qui naît au XIe siècle d'une révolution comme cyclique, comme une manière de retourner au même, une acception astronomique, hein, le retour d'un astre après le parcours autour de son orbite. Mais en même temps, c'était un programme qui était très clairement contre-révolutionnaire. Et d'ailleurs, Goebbels, notamment, disait que la Révolution française, en tant que l'un des moments de surgissement de la citoyenneté, donc de l'idée d'une participation humaine au cours de l'histoire avec la légitimité de décider politiquement, la Révolution française devait être effacée en quelque sorte de l'histoire dans une perspective assez millénariste, une conception du temps millénariste, justement cyclique, où la Révolution comme événement et comme droit humain, comme avènement des droits humains, n'avait pas sa place. Voilà, et la dernière chose que je peux dire, bon, après, bien sûr, on va pouvoir approfondir cette question de la définition avec des exemples historiques et une réflexion sociale et politique comme on a commencé à la mener ensemble. Mais c'est que même s'il y a en effet de l'événement, du surgissement, de l'irruption, et comme on l'a dit, avec des choses qu'on n'aurait pas imaginées quelque temps auparavant et ce dont on est capable individuellement et collectivement par aidant le mouvement, il ne faut pas nécessairement s'imaginer qu'une révolution se déterminerait uniquement dans cette événementialité. Il y a des formes de révolution anthropologique, ce sont des révolutions de long terme, ce sont des révolutions qui courent dans la structure même de la société. C'est pour ça que c'est anthropologique au sens où ça touche à l'humain, ça touche à un renversement progressif des valeurs. Et ce dont on a parlé à plusieurs reprises dans le débat mouvement tout à l'heure en fait partie, c'est-à-dire la conscience que l'humanité, et pas seulement l'humanité, mais le vivant est au bord de l'abîme. Ben oui, ça peut faire changer assez radicalement notre vision du monde et notre système de valeurs. Donc contre la marchandise, l'idée de la préservation du commun, ça va être sans doute un élément structurant de notre débat.
Pouvez-vous nous expliquer, finalement, parce que dès l'introduction, vous parlez d'européanocentrisme, en fait, dans la perception de la révolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la vision, alors on va dire, franco-centriste de la révolution, on l'a un petit peu esquissé tout à l'heure, et comment cela se traduit très concrètement, encore aujourd'hui, dans les discours, dans nos institutions, dans nos représentations ?
Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu tout à l'heure que la question de l'internationalisme et des solidarités internationales et de l'idée aussi de sortir d'une vision ancrée en Europe, en Occident ou sur la France, cette idée-là, elle a surgi. Parce qu'on a de plus en plus conscience du monde auquel on appartient. On en a d'autant plus conscience pour diverses raisons qui tiennent aux formes diverses de la mondialisation, mais qui tiennent au fait du sentiment de la cohérence et de la cohésion de tout ce qui nous tient, de tout ce qui nous lie. Donc quand on parle du biocide, de la destruction du vivant, de l'écocide, voilà, de cette destruction des écosystèmes, on sait très bien que l'enjeu ne va pas se résoudre à l'échelle d'un seul pays. Mais ça, en fait, c'est aussi toute l'histoire des révolutions qui est pétrie de cette dimension de fraternité entre les peuples. Ce qu'on a voulu montrer dans l'ouvrage, c'est que les questions de solidarité, de lien, d'effet d'écho entre les mouvements révolutionnaires sont extrêmement puissants, extrêmement forts, et que si on sort de notre vision franco-centrée en s'imaginant souvent que voilà, c'est la France qui a inventé la révolution, on s'aperçoit que les révolutions sont un phénomène constitue un phénomène qui est vraiment récurrent dans l'histoire. Et ça peut aussi nous encourager dans la question qui est posée, est-ce qu'une révolution est encore possible ? Est-ce qu'on va pouvoir en faire une ? Parce que les peuples sont finalement assez familiers de l'histoire révolutionnaire. Et même si, bien sûr, tout à l'heure, une personne a dit à juste titre qu'il fallait à chaque fois contextualiser, et il ne s'agit pas de comparer les révolutions qui ont eu lieu aussi bien en Tunisie, en Égypte, au Bahreïn, en Syrie, au Sri Lanka, ces dernières années, les soulèvements populaires incroyables qu'on a connus, notamment aussi à Hong Kong, avec la Révolution française ou la Révolution américaine. Mais quoi qu'il en soit, des révolutions, notamment dans ce monde global, dans une perspective aussi de rapport sud-nord, on en a vu énormément au cours de ces dernières décennies. En Europe, la dernière, c'est celle de 1974, la révolution des œillets, dont on célèbre aujourd'hui, justement, enfin, cette année, les 50 ans, et qu'il faudrait peut-être pouvoir interroger d'assez près, parce que ce n'est pas seulement la dernière révolution en Europe, mais ça a été une révolution spectaculaire sur le plan de l'auto-organisation populaire et qui, de surcroît, n'a pas eu recours à la violence révolutionnaire. On croit toujours que la violence est intrinsèque à la révolution. Je pense qu'il va falloir nuancer ça. Et en tout cas, voilà, quand on regarde ces rapports globaux, en faisant une histoire globale, précisément, on mesure que... ces soulèvements populaires, ils n'ont cessé d'activer des consciences politiques très, très larges.
Tendo la Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grande la Vila Morena.
em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.
Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade.
Esto é para ti, mamita.
Lors des dernières escales du livre, les 4 et 5, 6 avril dernier, j'ai ouvert mon micro à l'écrivaine Nancy Houston qui présentait son dernier ouvrage, Francia, au TNBA. La qualité du son est certes moyenne, mais le contenu est passionnant, à vous de juger. Nancy Houston nous explique le pourquoi de son dernier livre, mais aussi sur la façon, sa façon d'écrire et de décrire ce milieu de la prostitution du Bois de Boulogne, à travers le cheminement du transgenre Francia, originaire de Colombie, et qui, comme pour beaucoup de prostituées, hommes, femmes ou transgenres, sont le produit de l'exil. Exil partagé par Nancy Houston elle-même, qui font écho à notre semaine de mars dernier au Théâtre de l'Inox, exil des mondes passés, des territoires d'avenir. Pour ceux qui ne connaissent pas Nancy Houston, une rapide biographie. Alors elle est née le 16 septembre 1953 à Calgary au Canada. C'est une écrivaine franco-canadienne d'expression anglaise et française. Après avoir grandi au Canada, elle suit son père aux États-Unis lorsqu'elle a 15 ans et finit ses études à New York. Quand Nancy a 6 ans, sa mère quitte brusquement son foyer pour aller mener une vie ailleurs. Un traumatisme douloureux mais fondateur qu'elle transforme en richesse, c'est par l'imagination qu'elle va tenter de comprendre l'incompréhensible. Venue à Paris pour un an en formation en 1973, Nancy Houston reste et devient élève de Roland Barthès. Elle débute sa carrière en tant qu'essayiste pour le MLF et pour des journaux de femmes tels que Sorcière qu'elle a cofondé et publie son premier roman en 1981, Les Variations Goldberg. Nancy Houston s'est vu attribuer plusieurs prix, dont le prix Femina pour son livre « Ligne de faille » en 2006. L'adaptation au théâtre du roman « Ligne de faille » par Catherine Marnas est présentée au Théâtre National de Bordeaux du 8 au 23 octobre 2014. Résumé du roman. À travers les portraits croisés d'une prostituée transgenre ultra résiliente et de sa ribambelle de clients, Nancy Houston dissèque les mécanismes de la domination dans ce livre, paru chez Actes Sud. On le rappelle, il y a eu une adaptation au théâtre de son roman « Ligne de faille » par Catherine Marnas, qui en fait aujourd'hui la modératrice dans cet entretien et qui, 10 ans après la création de la pièce présentée en 2014, interviewe ainsi notre romancière.
Donc ce roman s'appelle Francia. Alors, les romans de Nancy ne se ressemblent pas dans les thèmes, j'allais dire. C'est-à-dire que chaque fois, il y a un sujet bien précis. Par contre, quand on connaît Nancy, on reconnaît absolument toujours cette façon qu'elle a de décrire l'humanité avec d'abord une très belle plume et puis une très grande précision dans le regard que Nancy porte sur le monde et donc transmet dans ses fictions. C'est toujours toujours extrêmement paradoxal, au sens vraiment étymologique, c'est-à-dire contre les pensées toutes faites, reçues, ou qu'on a tellement entendu qu'on les prend pour des vérités. T'as pas fait que des amis, hein, puisqu'en tant que féministe, tu es aussi paradoxale, puisque pour certaines féministes, faire l'éloge de la maternité, c'est quelque chose qui n'est pas dans une certaine doxa. Et puis l'autre paradoxe qui est très fort présent dans ce livre-là, c'est que quand tu parles de la société globalement, dans laquelle on est, tu attribues une très grosse responsabilité aux hommes, entre autres sur la violence, sur la guerre, mais tu as toujours une façon de les regarder qui n'est pas de la condamnation, et là-dedans c'est particulièrement sensible, puisqu'il s'agit de l'histoire d'une prostituée trans au Bois de Boulogne, mais l'histoire des 17 clients qui viennent la visiter dans une journée, et quels que soient les travers, les défauts de ces clients-là, tu les regardes toujours avec empathie et avec bienveillance et compréhension.
Donc le titre, déjà, c'est ça, c'est un titre polysémique, puisque c'est à la fois le nom, un des noms de ce personnage. Il en a quatre. Il s'appelait Ruben quand c'était un petit garçon en Colombie. Ensuite, il a commencé à travailler comme prostituée travesti à Bogota. Il s'appelait Ruby. Et puis, après ça, son implantation mammaire, son opération qui l'a transformé de façon magnifique, qui est le tout premier chapitre zéro, qui s'appelle Silicone. Elle a fait une fête pour annoncer à ses copines son nouveau nom, qui est son espoir d'aller travailler à Paris. Et elle déclare donc qu'elle va s'appeler Francia. Mais c'est aussi, en raison de ses 17 clients, le livre voudrait être une mosaïque de la France contemporaine. Parce que lorsque j'ai discuté avec les travailleuses du sexe, d'ailleurs trans ou non, si je pose la question de qui sont les clients, la réponse était toujours exactement la même, c'est tout le monde. J'ai pas voulu faire des caricatures, effectivement, enfin, je n'aime pas ça, je ne sais pas. Je me suis glissée à l'intérieur de chacun de ces hommes, c'est pas pour dire que tout le monde est sympathique, mais on a tous des côtés antipathiques en soi aussi, donc j'ai pas du tout de mal à faire quelqu'un qui a des travers. Il y en a même un qui est meurtrier, qui a tué sa femme et que j'arrive à trouver assez sympathique. Mais je passe beaucoup de temps dans les prisons depuis très longtemps, donc j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de meurtriers et de violeurs. Donc j'ai vraiment du mal à les exclure de l'humanité. Et j'ai envie de faire un essai après ce livre-là qui serait sur l'indicible, à savoir les forces des femmes et les faiblesses des hommes. Et ce qui a été un peu tu, un peu écrasé au long des siècles, voilà. Donc j'aime bien les paradoxes, c'est vrai. C'est une de mes grandes théories, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai une, qui est que les femmes sont partiellement responsables de l'état du monde extraordinairement violent auquel nous assistons tous les jours, devant nos écrans divers, parce que, pour des raisons darwiniennes évidentes, nous avons toujours, au long des siècles et des millénaires, préférer nous reproduire avec des hommes forts. Et donc il y a non seulement une sélection naturelle, mais une sélection sexuelle, et donc on a systématiquement sélectionné la force, et on est en train de payer la note pour cette sélection-là. On a des hommes beaucoup, beaucoup trop violents pour la survie de l'espèce, et pas seulement la nôtre, mais pour la survie de toutes les espèces. Mais bon, c'est un peu un grand thème. Quand j'avais fait un éloge de l'homme doux, je disais aux femmes, j'implorais les femmes de choisir les hommes doux, de faire des bébés et l'amour avec les hommes doux. Mais le fait est, et c'est juste une parenthèse scientifique, on a fait plein d'expériences avec les femmes. On leur montre des photos de garçons qui désirez-vous, lequel vous paraît désirable. On passe les photos très rapidement. Figurez-vous qu'elles ne choisissent pas le même mec selon la période, le moment de leur cycle. Et quand elles sont fécondes, elles choisissent des tueurs. Et le reste du mois, les autres 27 jours du mois, elles choisissent the boy next door, quelqu'un qui va les aider à s'occuper des enfants et faire des courses, etc. Mais au moment où elles sont fécondes, elles préfèrent l'homme des cadernes.
Ouais. Comme tu dis, ça pouvait être utile à une certaine époque. Maintenant, quand même, c'est plus vraiment nécessaire. Hein. Normalement. Donc là, tu parles de la prostitution. Là, finalement, Francia a quelque chose à voir. Le sexe qui console et qui soigne. Et je voulais te parler de cette idée de la prostitution où tu parlais d'un service obligatoire.
Oui, c'était d'un reflet dans un œil d'homme. J'avais suggéré ça un peu pour secouer les gens, pour qu'ils se demandent. Mais donc, c'est une façon de surmonter, par exemple, l'interdit, le tabou lié à la virginité. Il n'y aurait plus de vierge. C'est fini. Donc, c'est fini, le tabou de la virginité. On n'en fait plus. On dirait plus fils de pute, etc. Parce que tout le monde serait fils de pute et fille de pute. Et tout le monde, leur mère aurait fait son service prostitutionnel. Et donc, ce serait une façon, c'était une provocation, bien sûr, mais une façon d'arrêter ce mépris dont les prostituées sont l'objet. C'est vrai que le chrysalidisme m'a fait beaucoup évoluer. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la connaissais de loin quand elle était active dans le mouvement des prostituées en France au milieu des années 70. Mais plus je la lis, plus je l'ai lue et plus je l'ai admirée. Et plus elle m'a fait changer d'avis aussi, m'a fait évoluer. Et ça ensuite, se trouve que j'ai un ami qui travaille au Bois de Boulogne dans les maraudes, c'est-à-dire qui sort en camionnette plusieurs fois par semaine pour apporter aux femmes qui travaillent là-bas des choses à manger, à boire, des capotes lubrifiantes, des discussions, un peu de chaleur humaine, etc. Donc c'est souvent sous l'égide d'associations catholiques. Cet ami m'a invité à l'accompagner, ça m'a fait... D'abord, je me suis dit, mais ça ne me concerne pas spécialement. Je venais de finir le livre sur Chrysalidis. Je me suis dit, je ne vais pas rester dans ce sujet encore longtemps. Finalement, je me suis dit, je ne peux pas ne pas aller, puisqu'il m'invite. Et c'est quand même un truc tellement, tellement fort. Et c'était très peu de temps après l'assassinat de Vanessa Campos aussi. Je suis allée une fois, il faisait très froid. C'était en novembre, il faisait 7 degrés. Enfin, et elles m'ont vraiment impressionné, ces femmes, par leur niaque, par leur sens de l'humour, par leur solidarité, leur esprit de corps, comme ça. Et du coup, il y en a que j'ai rencontrées personnellement, que j'ai commencé à interroger et que j'ai trouvé vraiment émouvantes. Et le début du personnage de Francia.
Je sais que tu as une relation particulière à l'écriture et à tes personnages. Tu as l'impression qu'ils t'apparaissent, qu'ils te parlent, qu'ils sont à côté de toi, qu'ils t'entourent. Et tu te documentes beaucoup aussi.
Oui, j'ai fait des recherches en allant au procès de ces garçons. C'était une bande de voleurs égyptiens qui sévissaient au Bois de Boulogne depuis un certain moment. Mais après la loi Hollande, donc on va aller vite parce qu'on veut aussi parler du bouquin, mais c'est vrai que c'est un chapitre du livre et c'est l'ambiance, ça vous donne une idée de l'ambiance. Ce bois est là pour le plaisir et le loisir des Parisiens depuis quelques petits siècles et déjà plus d'un demi-siècle que les TDS trans travaillent là, puisque c'est déjà dans La vie devant soi de Romain Gary. Il y a un personnage, une femme sénégalaise qui était un ancien boxeur, Lola. Avec la loi Hollande pénalisant les clients, les femmes ont été obligées d'aller de plus en plus loin dans le bois où il n'y a pas de lumière pour qu'on ne voit pas les clients. Et donc ça devient de plus en plus dangereux, on a peur d'être arrêté, bien sûr. Donc c'était pénible pour tout le monde. Et les voleurs venaient pendant que le client était occupé, ils volaient les affaires dans sa voiture, ou s'il était à pied, ils le braquaient, etc. Donc c'était vraiment devenu impossible pour les femmes de bosser. Si elles se plaignaient, elles se faisaient violer. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est l'une d'elles avait engagé un de ses amis, c'était engagé un vigile, mais c'était même pas ça. C'est un de ses amis qui a proposé de garder les voitures des clients pour qu'elles puissent bosser. Et les voleurs n'ont pas supporté, ils étaient foudrages, disons, nous empêchent d'exercer notre métier. Ils ont décidé de leur faire peur, ils ont organisé une expédition armée et voilà, ça a dégénéré. Ce qui est très important, c'est que l'arme du crime, c'était l'arme de service d'un flic qui était occupé avec une prostituée au moment où on l'a volée dans sa voiture, 15 jours avant l'assassinat de Vanessa. Donc c'est l'ironie suprême. D'ailleurs, ce monsieur, je ne vais pas le nommer, mais je sais son nom, je l'ai entendu dans le deuxième procès à Créteil, en assise, donc en appel. La juge lui a demandé ce qu'il en était, etc., parce qu'il avait été écarté du service pendant un moment. Il a dit qu'il avait dû faire un stage d'information sur la prostitution. Et la juge dit, mais qu'est-ce que vous avez appris au cours de ce stage? Il a dit, elles font pas ça pour le plaisir, en fait. Voilà. Donc, voilà une leçon très importante que tout le monde pourrait apprendre pour une fois. Les prostituées, en fait, ne font pas ça pour le plaisir. Et en fait, la prostitution n'a rien à voir avec la sexualité féminine. Elle n'a à voir qu'avec la sexualité masculine, qui n'est jamais montrée. C'est pour ça que j'ai voulu entrer dans la tête de ces hommes, et j'entre dans leur corps dans la mesure où ils sont mariés, ils ont été petits garçons, j'évoque leur passé, j'évoque leur personnalité, tout ça. Je ne décris pas les ébats avec Francia.
Ah oui, ça c'est très beau, ça s'arrête juste dans
ça s'arrête au moment où ils arrivent, là où elle se trouve. Elle en refuse trois, pour des raisons différentes.
Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que tu apparais dans un de tes romans.
La première fois que j'apparais, c'est dans la camionnette.
On a pu te reprocher aussi et te dire que tu n'es ni travailleuse du sexe, ni trans. Mais je trouve que c'est très joli l'explication que tu donnes par rapport à un statut que tu aimes beaucoup et qui est important pour toi, qui est ton statut d'étrangère.
Ça, c'est aussi une forme de chimère ou de monstre, n'est-ce pas? Parce que je partage ça avec elle et il faudrait le savoir que l'immense majorité des travailleuses du sexe en France sont étrangères. Bien sûr, la prostitution recouvre toutes sortes de réalités différentes. Il y en a qui sont épouvantables, il y a du trafic de femmes, il y a l'esclavage sexuel, etc. C'est évoqué aussi dans le bouquin, mais il se trouve que la plupart des latinas viennent de leur propre volonté et elles gèrent ça de façon plus indépendante. Ça ne veut pas dire que leur vie est facile ou exempte de violence ou de danger. À nouveau, je me sens obligée de dire que plus c'est illégal et méprisé, plus c'est dangereux. Mais en tout cas, elles sont étrangères et donc je partage ça avec elles. Je comprends, même si on n'a pas le même exil, je sais ce que c'est de vivre en exil. Ouais. Je vais peut-être lire un petit passage sur l'exil. Les présentations fusent. Marco est animateur culturel à la ville de Paris. Ariane travaille comme représentante pour une grande maison d'édition. Ne sachant pas en quoi peuvent consister ces activités, Francia s'exclame « Franchement, il y a des métiers plus bizarres que pute. » Tous trois éclatent de rire et la glace est brisée. Donc, ils vont parler et petit à petit devenir amis. Pas mal de temps s'écoulera avant qu'elle ne vraiment leur parle de sa vie en Colombie. L'exil peut rendre fou. Tous les exilés le savent. Pour éviter la folie, on échafaude dans sa tête un mur entre ces deux mondes. Vivant à Paris-France, Francia ne peut se permettre de garder la réalité colombienne constamment présente à l'esprit, car pour les Français, cette réalité est inimaginable. Elle doit oblitérer de sa conscience les tares de son pays d'origine. Non seulement les drames qui défraient la chronique et font l'objet de séries télévisées, cartels de drogue à l'organigramme aussi sophistiqué que celle du Vatican, kidnapping, assassinat, prostitution forcée de gamines prépubères, guérilla abattant froidement leurs ennemis, les enfants de leurs ennemis, prisonniers torturés, femmes enceintes éventrées, mais aussi plus modestement la vie quotidienne de millions de gens dans la misère, la vie sans eau courante, ni électricité, ni évacuation des eaux usées, toutes les manières dont le corps pauvre est déformé, membres manquants, ventre distendu, dos cassé, visage schlagué. Si Francia devait garder tous ses souvenirs actifs dans son esprit, elle serait incapable d'avoir de l'empathie pour les Français, bouleversés, eux, par une tracasserie administrative ou un début d'arthrose au genou gauche, la voiture à remplacer l'année prochaine, ou le prix des chaussettes et du chocolat. Et le pire, c'est qu'elle ne peut effacer les ombres de la Colombie sans en perdre aussi les lumières. L'accueil, la chaleur, les mets délicieux, la soupe rassurante, sa maman en train de préparer les arepas, comme si elle y berçait, les passant prestement d'une main à l'autre en tapotant « Assieds-toi, mange !» La gentillesse, la spontanéité, tout le côté truculent et sexy de la vie quotidienne, tambour, guitare, dents qui brillent, yeux qui pétillent, habits et hanches qui se balancent, corps en chair qui bouge, murs bariolés, rouge vif, violet, gentiane et bleu, 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 le bleu de la mer et du ciel, pour ne rien dire de l'exaltation qu'il y a à vivre, comme à Bogota, sur un plateau serti au flanc d'une haute montagne avec de la verdure tout autour et la tête dans les nuages. Alors, on construit le mur. Et tant qu'on est avec les autres, ça marche. Mais dès qu'on se retrouve seul, le mur se craquelle et se fissure, s'effondre même parfois, comme dans le rêve de Francia ce matin. Tout se mélange et c'est atroce. Donc ça, j'ai pas de mal effectivement à comprendre ça. Et elle-même qui déteste son père, on va le comprendre dès la première page parce qu'elle fait ce cauchemar sur son père. Dans le courant de la journée, elle va comprendre mieux, elle va mieux comprendre son père parce qu'elle se rappelle que lui aussi est dans l'exil. Il a dû quitter le pays de Guajira dans le nord, descendre cet énorme fleuve qui était un peu l'équivalent du Mississippi pour les États-Unis, qui s'appelle le Magdalena, qui donc c'est à 3000 km au sud, donc vraiment d'énormes distances. En montant, il a fait ce voyage avec sa femme parce qu'elle était enceinte de lui, donc c'est un peu la fuite en Égypte. Darwin, Jack London, Henri Laborie et lui-même, Brendan B.
Bon, vous venez de l'entendre, il n'y a pas que le café que l'on exporte en Colombie, il y a aussi des chansons. Alors cette chanson, c'est la chanson, bien sûr, un peu bateau, hein, tout le monde la connaît. C'est une chanson inspirée d'une cumbia populaire qui s'appelle la Colegiala et qui est d'une efficacité, d'une simplicité remarquable. Et cette chanson, elle a été créée en 1977 par un homme issu d'un groupe péruvien, il s'appelle Walter León Aguilar. Et ça a été repris en 82 avec le succès qu'on connaît, hein, la publicité Nescafé est passée par là. Excusez-moi auprès de la clé des ondes, nous sommes la seule radio à ne pas faire de publicité, mais bon là c'est un petit peu historique. Et dans le monde entier, en fait, dès qu'on entend ces trois notes, on a envie de danser et de chanter cette chanson traditionnelle, cumbia populaire. Eh bien, histoire de voir, histoire au pluriel, ça se termine. Nous sommes heureux de vous avoir peut-être intéressé. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours sur la clé des ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Donc, histoire de voir, histoire au pluriel, c'est tous les mardis de 13 à 14 heures. À la semaine prochaine. Au revoir.